Salut à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. Les bracelets sport de l'Apple Watch pourraient bien être privés de leur troisième morceau. Le tout nouveau modèle lancé à l'occasion des marches des fiertés se contente en effet de deux morceaux, alors il ne faut pas se tromper lors de la commande si on ne veut pas se retrouver avec un bracelet trop court ou trop long. On vous dit tout dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, ça sent le week-end prolongé avec le lundi de la Pentecôte, mais avant, on va retrouver Christophe pour le replay de la semaine. Il y a eu pas mal d'annonces et d'actu en tout genre ces derniers jours, alors ne manquez pas ça. Nous sommes le vendredi 26 mai, voici les infos qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Apple fait des économies de bout de chandelle avec les bracelets d'Apple Watch. On s'est rendu compte que le nouveau bracelet Pride n'était plus fourni en 3 parties, mais seulement 2. Alors récapitulons. Quand on achète un bracelet sport, comme c'est le cas du Pride de cette année, Apple fournit 3 morceaux. Il y a la partie avec le clou et la boucle, et 2 autres avec les trous. Il y a un morceau plus court et un morceau plus long. Ça n'est plus le cas avec le bracelet Pride, qui n'a donc plus que 2 morceaux, celui avec le clou et celui avec des trous. Et il faut donc bien choisir la taille du poignet au moment de la commande, sinon ce sera soit trop court, soit trop long. Les autres modèles sport sont toujours livrés avec 3 bouts de bracelet, mais on peut se demander si ça ne va pas changer rapidement. Alors, on a tout à fait le droit de râler et de dire qu'Apple joue une fois de plus son rôle préféré d'avare grippe-sous, surtout que le prix ne change pas, le bracelet Pride coûte le même prix que les autres bracelets sport, c'est-à-dire 49€. Mais en même temps, une fois qu'on a choisi la bonne longueur, le morceau supplémentaire reste à moisir dans un tiroir. Et puis, on risque d'attendre longtemps un geste d'Apple sur le prix de ce genre d'accessoires. Ce n'est pas vraiment un scoop, Apple va présenter 2 nouveaux iPhones à la rentrée et comme d'habitude, ce lancement va s'accompagner d'un tsunami de nouveaux étuis dans tous les sens. Et bien souvent, ces coques sortent avant même que les iPhones soient disponibles. Mais comment font les fabricants d'accessoires pour être au rendez-vous des nouveaux smartphones d'Apple chaque année? C'est assez simple, ils piquent les modèles 3D et les schémas techniques des iPhones qui commencent à circuler au début du printemps. Un de ces accessoiristes nous a justement fourni des images de ces modèles, ils permettent de créer les moules à injection qui servent à produire des étuis à la chaîne. On n'y apprend pas grand-chose qu'on ne savait pas déjà sur les iPhone 15, mais ces modèles 3D ont le mérite de confirmer plusieurs indiscrétions. La gamme, dans son ensemble, devrait donc passer à l'USB-C, les arêtes sont légèrement plus arrondies, le bloc photo s'annonce encore plus gros et imposant, et sur les modèles Pro, le tiroir pour la carte SIM disparaît corps et bien. Il reste encore quelques zones d'ombre, par exemple pour les matériaux, parce qu'il se murmure que les modèles Pro auraient un châssis en titane au lieu de l'acier inoxydable. Apple a encore d'autres surprises à dévoiler, comme le nom du Pro Max qui pourrait devenir Ultra, ou encore les prix qui risquent de faire mal encore cette année. Les iPhone 14 Pro ont inauguré un nouvel écran verrouillé, il reste allumé en tout temps en affichant des infos et des widgets comme la météo ou le niveau de batterie. Avec iOS 17, Apple pourrait aller encore plus loin à en croire la dernière rumeur de Mark Gurman. L'écran des iPhone pourrait en effet présenter plus d'informations comme les rendez-vous à venir et des notifications plus complètes quand le smartphone est verrouillé et posé à plat. Android a ça depuis 2019, mais il faut que le téléphone soit branché sur le courant, et a priori ça ne devrait pas être nécessaire avec l'iPhone. Cette nouveauté ferait en tout cas de l'iPhone une sorte d'écran connecté, un concept qui s'adapterait encore mieux à l'iPad. Du côté des tablettes, la fonction serait toujours en développement, et rien ne dit qu'elle sera disponible avec iPadOS 17 malheureusement. Sans trop de surprises, les opérateurs n'ont pas vraiment recruté à tour de bras ces derniers mois, pour une raison assez simple, ils ont augmenté les prix de leurs forfaits depuis le début de l'année. En moyenne, ils ont grimpé de 20%, c'est sûr qu'il y a de quoi refroidir les consommateurs. L'ARCEP, qui est le régulateur des télécoms en France, a même constaté une baisse du nombre de cartes SIM au premier trimestre. Il y en avait 160 000 de moins que fin 2022. C'est SFR qui a pris le plus cher, vu que l'opérateur a perdu 100 000 clients. Orange et Bouygues sont dans le vert, mais largement en dessous de leur performance passée. Il n'y a que chez Free où on garde la patate avec 172 000 nouveaux clients. L'opérateur s'était engagé à ne pas augmenter ses prix, ceci expliquant sans doute cela. Et le reste de l'année ne s'annonce pas tellement plus radieux pour le recrutement d'abonnés, ni pour leur portefeuille. Les opérateurs ont bien l'intention de garder des prix plus élevés, histoire de faire face à l'inflation de leurs coûts. Et puis, je peux vous dire que, vu du Canada, les forfaits en France restent encore très très bon marché. On n'a jamais le temps de s'embêter dans le petit monde d'Apple. Il y a toujours quelque chose de neuf à se mettre sous la dent. Et quand ce n'est pas Apple qui fait l'actualité, d'autres s'en chargent comme Microsoft ou Netflix. Avec Christophe, on va faire le point sur les principales actus de ces derniers jours dans le replay de la semaine. Salut Christophe.
Salut Mickaël, bonjour à tous.
Apple a donc fini par sortir des versions iPad pour Final Cut Pro et pour Logic Pro. C'était attendu depuis des années, alors vous pensez bien qu'on s'est précipité pour vous proposer des aperçus. Et au bout du compte, eh bien, Apple ne s'est pas moqué des utilisateurs. Alors c'est sûr qu'il y a des limitations. Sur Logic, on ne peut pas enregistrer une piste audio en même temps qu'on discute en FaceTime par exemple, mais c'est un bon départ. Ça prouve en tout cas que l'iPad mérite quelque part son qualificatif Pro. Mais est-ce que c'est pas un petit peu tard pour l'iPad ?
Ça pourrait être un sujet au bac, ça. Est-ce qu'Apple ne s'y prend pas un peu trop tard pour l'iPad ? Vous avez 4 heures. Dans la game Apple, de toute façon, l'iPad, ça a toujours été une sorte d'anomalie, d'être d'abord une anomalie statistique. Ouais. C'est le seul appareil dans la gamme dont le record de vente doit dater maintenant, en termes d'unités, doit dater maintenant de quasiment une décennie. Ouais. Enfin, je veux dire, pour le Mac ou l'iPhone, si c'est pas le trimestre d'avant, on n'en est pas loin, quoi. Ouais. Puis bon, c'est vrai qu'Apple n'a pas toujours été hyper clair quant à sa stratégie pour sa tablette. Et surtout, on a toujours eu l'impression que c'était un peu comme le Mac. Voilà, on y pense qu'on a un peu de temps, il faut s'occuper de l'iPhone, le reste on verra après. Ouais. Bon, la WDC, on y est presque. Alors maintenant, c'est la période de l'année où on se peut espérer. On espère que iPadOS va embarquer plein de chouettes nouveautés, voilà.
Et bon. C'est jamais le cas.
Non, mais c'est vrai que depuis quelques années, Apple essaie et c'est déjà ça. Et oui. D'ailleurs, enfin, elle vient de le prouver avec Final Cut Pro et Logic. Voilà, ça s'inscrit un petit peu dans cet effort un petit peu sur le long terme d'Apple. Alors voilà, j'ai lu ce que vous avez écrit là-dessus. Apple a l'air de s'être appliqué. On dira que l'attente en valait la peine. Maintenant, cela pose une autre question. Enfin, de mon point de vue, c'est... Est-ce que ces applications vont trouver leur public ? Je suis pas certain que ce soit avant tout l'utilisateur sous Mac de Logic Pro ou de Final Cut Pro qui soit visé. Est-ce qu'il n'y aura pas une volonté d'ailleurs de la part d'Apple de rajeunir un petit peu sa population d'utilisateurs de logiciels Pro ? Il y a peut-être beaucoup, alors ça fait très cliché, mais de YouTubers ou de personnes qui créent beaucoup sur les réseaux sociaux, qui ont des iPads et qui pourraient être intéressés par ce type de solution. Mmh. Et qui sait même après que ces gens-là viendront gentiment au Mac, on a déjà vu ça par le passé. Par rapport à la limite que tu disais là, cette limitation dans Logic, peut-être qu'Apple a fini d'ailleurs par s'en rendre compte, et qui sait avec iPadOS 17. Ah, on peut rêver en ce moment.
Cette semaine, on a aussi appris qu'Apple avait signé un nouveau contrat sur plusieurs années et aussi à plusieurs milliards de dollars avec Broadcom. Ces deux-là se connaissent bien. Broadcom fournit des composants réseau à Apple depuis longtemps. Ils avaient d'ailleurs déjà signé un contrat en 2020 pour 15 milliards de dollars. Le nouveau partenariat porte sur des composants 5G, ce qui est intéressant parce que Apple travaille toujours, semble-t-il, sur sa propre puce 5G, histoire de se débarrasser complètement des modems de Qualcomm. À ton avis, est-ce que ce contrat, c'est simplement le renouvellement du précédent accord ou est-ce que c'est le signe que ça avance finalement sur le développement de cette puce 5G ?
Ah, j'aimerais bien avoir un avis sur la question, tellement que c'est nébuleux. Non, mais j'aimerais bien dire que Apple donne l'impression d'être nulle part avec ses histoires de composants 5G notamment. C'est vrai que déjà, elle avait eu pas mal de difficultés à faire des GPU qui tiennent la route, mais bon, c'est normal, c'est quand même un boulot immense. Il y a quand même des sociétés qui ne font que ça depuis des années ou presque. Et donc oui, faire des puces réseau, c'est tout aussi compliqué. Mais après, j'ai retrouvé une vieille déclaration. Avant le rachat de l'activité des puces réseau d'Intel en 2019, donc c'était déjà il y a quelques années, il y avait des rumeurs et des bruits de couloir chez Apple qui disaient que donc Apple s'était lancé déjà sur la conception d'une telle puce il y a plus d'un an et qu'ils espéraient à l'époque ils espéraient au mieux une puce 5G estampillée Apple au mieux en 2025.
Oui.
Alors bon, ça permet de relativiser un petit peu, Alors il y a eu l'acquisition entre-temps de la division, de cette fameuse division Intel. Alors peut-être qu'Apple espérait avec ça raccourcir les délais, mais manifestement, ils n'ont pas l'air d'y arriver. Faut rappeler que les puces réseau d'Intel étaient déjà en difficulté par rapport à la concurrence, donc ils ont sans doute pu récupérer un bon paquet d'ingénieurs, mais c'était peut-être pas suffisant pour qu'Apple arrive à ses fins. Bon, en attendant, on se rappelait tous que ces constructeurs-là, ils tremblaient lorsque on a entendu qu'Apple voulait se lancer sur ses composants. Et voilà, le cours de bourse de certaines boîtes s'était effondré. Oui. Voilà, les Broadcom et Qualcomm vont continuer grâce à Apple à engranger pendant quelques années encore des milliards de dollars. Et on va dire tant mieux pour eux.
En attendant la WWDC, on a eu droit cette semaine à la conférence Build de Microsoft pour les développeurs de cette plateforme. Il y a eu une tonne d'annonces et notamment la présentation d'un copilote dans Windows 11. C'est une sorte d'assistant à tout faire qui carbure évidemment à l'intelligence artificielle d'OpenAI. Le Siri du Mac est complètement ringardisé, mais en même temps, est-ce que ce genre d'outil est vraiment utile dans un système d'exploitation ? Parce que c'est aussi le signe que tout n'est pas intuitif dans Windows s'il faut un assistant pour faire des choses.
Les assistants d'aide et Microsoft. Ah, une longue histoire d'amour. Faudra quand même voir l'usage. Tu me permettras d'avoir quand même deux, trois doutes sur la chose. Ouais. Et puis, bon, moi, ça me fait, quand on parle d'assistant de Microsoft, ça me fait toujours penser à Clippy dans Word. On
peut pas dire. Oh, c'est dur.
Et il n'était pas aidé, le pauvre. Bon, en attendant, tu dis que l'assistant dont il ne faut pas prononcer le nom parce que ça fout le bazar pendant les enregistrements de podcasts est bête comme chou. Voilà, mais je tiens à préciser que sur Mac, lui, c'est déjà activé le mode sombre. Et de manière générale, il sait intervenir sur pas mal de paramètres système. Ouais. Voilà, comme coupe le Bluetooth, coupe le Wi-Fi ou ce genre de choses. Ouais. Donc bon, hein. Bon, après, oui, l'IA, c'est la grande tendance du moment, il n'y a pas doute. Mais je crois qu'il va falloir aussi réfléchir à comment l'intégrer à bon escient. Et là, chez Microsoft, on tartine, ah oui. Jusqu'à voilà. Hein. Ouais. Bon, il y a des exemples où moi ça me paraît pertinent. Je sais qu'ils veulent l'intégrer dans un traitement de texte, et je trouve l'idée très pertinente. On s'est tous retrouvés, par exemple, une fois à vouloir écrire une lettre de résiliation parce qu'on veut changer d'opérateur Internet, ouais. Et on se retrouve à faire des recherches sur Internet, lettre de résiliation, et on se retrouve même avec des gens qui cherchent à vous faire payer la lettre de résiliation. Enfin bref. Ouais. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut se dire, ouais, que ChatGPT doit être capable de faire. Enfin bon, je serais vous, je relirais quand même la lettre, on ne sait jamais, parce qu'il est capable de demander de prolonger le contrat, hein, si SFR, là, tu qui es en douce, on ne sait jamais.
On passe tout à fait à autre chose maintenant avec l'annonce de Netflix tant redoutée qui a fini par tomber. Le service de streaming a lancé la chasse au partage de comptes gratuits en France et dans une centaine de pays. Les titulaires d'un abonnement Netflix qui partagent leurs comptes avec des proches devront maintenant payer 6€ par utilisateur supplémentaire. Du point de vue du business, ça peut se comprendre, sauf d'autant qu'il y aurait 5 millions d'utilisateurs Netflix gratuits, entre guillemets, en France par exemple. Mais après des années de laisser-faire, Netflix ne va pas se faire que des amis.
Non, ça c'est certain. Les responsables de Netflix, ils doivent quand même rêver de la façon dont la famille est gérée chez Apple et notamment dans iCloud. Ce sera tellement plus pratique pour eux, parce que là on a quand même l'impression qu'ils passent pas mal de temps et qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ce projet. Enfin, ça doit pomper un peu de ressources. Bon, après ils ont les moyens. Oui, enfin bon, après, et en même temps, on peut les comprendre, hein, parce que c'est quand même, comme tu disais, ils perdent quand même pas mal d'argent ouais. Avec ce biais-là. Autant je les comprends. Alors, pour parler d'un autre sujet d'actualité de cette semaine, j'ai beaucoup de mal à comprendre que le racket continue. Donc, on a appris cette semaine que nos Mac et les PC pourraient être assujettis à la taxe sur la copie privée. Oui. Ça, j'ai du mal à l'entendre, j'ai du mal à le comprendre. Voilà, en plus, on est quand même en 2023, il faudra avoir des études, mais je pense quand même tendance à penser que le piratage tend à régresser. Oh. Qu'à l'époque des Spotify, des Netflix et consorts, mais pourquoi on devrait encore payer quelques dizaines d'euros lorsqu'on achète un Mac, un PC, un iPad, un iPhone, un smartphone, enfin n'importe quoi. Ouais. Là, ça commence vraiment à faire beaucoup.
Allez, on va finir avec cette bonne nouvelle qui est aussi une mauvaise nouvelle. Bungie a en effet annoncé le grand retour de Marathon, le fameux jeu de tir qui a fait les riches heures des joueurs sur Mac dans les années 90, rappelez-vous. Le studio qui est passé entre les mains de Microsoft et qui appartient maintenant à Sony a donc dévoilé une sorte de reboot qui, hélas, mille fois hélas, n'est pas prévu pour le Mac. C'est dommage, mais est-ce que c'est normal selon toi ?
Non, mais je suis certain qu'il va être annoncé à la WDC. C'est l'histoire qui veut ça.
Sinon, sur le casque VR.
Voilà, sinon ces gens-là ne respectent absolument rien et je suis sûr que ça serait un fail complet. voilà, non, mais après, oui, ça serait tellement chouette que Marathon revienne sur Mac à un moment donné ou un autre. Mais c'est là où voilà, Apple essaie de relancer plus ou moins le jeu, notamment avec Apple Arcade sur ses plateformes. Il y a voilà maintenant donc à la fin des années 90, ils avaient essayé de racheter Bungie. Et c'est sans doute un échec. Et finalement, à l'époque, maintenant on a un moment où notamment Microsoft et Sony rachètent pas mal de studios. Si vraiment Apple veut continuer à booster sa plateforme, enfin ses plateformes avec le jeu vidéo, peut-être qu'il devrait penser à racheter comme ça 2-3 studios. Enfin, quand on voit les efforts qu'ils font avec TV+, on se dit que oui, bah, le jeu pourrait, voilà, enfin, pourquoi pas investir quelques milliards de dollars là-dedans.
Eh bien, merci pour ce tour d'horizon de la semaine. On va essayer de garder la tête froide durant les prochains jours, car mine de rien, bah, on n'est plus qu'à une semaine de la WWDC. Salut Christophe et bon week-end.
Bon week-end à tous.
Sortie de veille revient mardi prochain, et oui, c'est férié lundi, alors profitez-en bien. Merci à vous tous de nous suivre si nombreux chaque matin. À très bientôt pour de futures aventures.